Bonjour à tous et bienvenue sur Calade, au sommaire de notre journal local et régional. Bienvenue en Beaujonomie, porté par l'Inter-Beaujolais, l'Interprofession des vins du Beaujolais. Le festival œnobistronique a pour objet la découverte des domaines, maisons et caves. Un week-end de dégustation et de mets fins chez l'habitant. Une idée originale sur l'ensemble du territoire des vignobles beaujolais, c'est Fernanda et Thierry Ledin qui nous ont accueillis au domaine de Rochefolle à Salles-Arbussona en Beaujolais le 4 juillet dernier. La suite de l'actu avec Valérie Blais.
Le collège Jean Moulin et les écoles élémentaires Lamartine et Jean Bontou de Villefranche participaient à la cérémonie hommage fin juin de trois soldats spahis morts à Villefranche-sur-Saône le 3 septembre 1944 avec l'ONACVG, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et aux côtés des officiels, notamment le maire de Villefranche Thomas Ravier et le sous-préfet à Villefranche Monsieur Jean-Jacques Boyer. Une démarche citoyenne de la jeunesse saluée, de mémoire et de reconnaissance de la France envers tous ces hommes qui ont donné leur vie pour un pays qui n'était pas le leur. On écoute les allocutions des enfants de Thomas Ravier et de Monsieur Boyer.
Calade, le journal. Dans les écoles de commerce, l'écologie perce à peine. Les étudiants des écoles de commerce sont de plus en plus nombreux à élever la voix pour demander que leur cursus prenne en compte les enjeux climatiques. Mais le changement ne se fait qu'à très petits pas. À Jouy-en-Josas, sur le vaste campus d'HEC, l'une des meilleures écoles de commerce européennes selon le classement 2020 du Financial Times, on trouve un compost pour les déchets alimentaires, des espaces de récupération des mégots, un compacteur pour les déchets non recyclables compactés. Ils sont envoyés sur un site de valorisation énergétique à Villejust, un peu plus loin. Les étudiants ont accès à un potager pédagogique dont l'objectif est de produire des paniers de légumes qui seront revendus à petit prix à l'épicerie solidaire de l'école. Depuis le lancement officiel du programme « Zéro déchet » en juillet 2020, la direction d'HEC a constaté une diminution de 10% des déchets non recyclables, économisé 300 mètres cubes d'eau et recyclé 9 tonnes de bois. Les écoles de commerce seraient-elles en train d'opérer un virage à 180 degrés vers l'écologie ? Nous n'en sommes pas encore là. Cependant, des étudiants de plus en plus conscients cherchent à impulser le changement. Encore souvent considérés comme élitistes plutôt que militants, les étudiants d'écoles de commerce sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux questions environnementales et écologiques, mais ils sont clairement en minorité. Les écoles reçoivent aussi de nombreuses lettres de la part d'étudiants, les appelant souvent sévèrement à repenser leur enseignement de fond en comble. Une lettre ouverte publiée en janvier 2021 et signée par plus de 2000 étudiants et anciens d'HEC Paris dénonce ainsi le fait que les enseignements n'intègrent pas suffisamment les questions écologiques et sociales. Former 100% des étudiants aux enjeux sociaux écologiques, réduire les gaz à effet de serre d'une école ou encore suivre et publier son empreinte carbone, les étudiants ont dressé dans l'accord de Grenoble, en avril 2021, une liste de 11 engagements pour les établissements de l'enseignement supérieur français. C'est lent, beaucoup trop lent. Ainsi, en réponse aux revendications de leurs étudiants, la plupart des écoles ont commencé à réviser leur programme. HEC, par exemple, va mettre en place en septembre 2021 un cours obligatoire sur les enjeux climatiques et de biodiversité. Mais, pour nombre de critiques, les écoles n'en font pas assez. Ça commence à bouger. Les étudiants en école de commerce semblent donc sur la voie du changement malgré tout. C'est maintenant que tout se joue. Extrait d'un article de Reporter. Bienvenue en Beaujonomie. Porté par l'Inter-Beaujolais, l'Interprofession des vins du Beaujolais, le festival œnobistronique a pour objet la découverte des domaines maisons et caves, un week-end de dégustation et de mets fins chez l'habitant. Une idée originale sur l'ensemble du terroir des vignobles beaujolais. C'est Fernanda et Thierry Ledin qui nous ont accueillis au domaine de Rochefolle à Salles-Arbussona en Beaujolais le 4 juillet dernier.
Je suis natif de Bordeaux, plus particulièrement Libourne, dans le Pomerol. Et la vie m'a amené dans la région après la rencontre avec un viticulteur qui est bien d'ici, qui s'appelle Thierry Babad, qui a vu ma passion pour le Beaujolais. Et puis, en voyant ma passion, il m'a poussé un petit peu et incité à racheter des vignes qui s'arrachaient à l'époque. Et j'ai commencé comme ça en 2007. Et aujourd'hui, on en a repris un petit peu pour pouvoir faire une exploitation qui soit viable dans le temps.
Et puis, ça a continué ?
Oui, le domaine s'est agrandi. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 70 hectares. C'est surtout dû au fait que les viticulteurs en place ne trouvaient pas de repreneurs. et qui sont venus me voir pour essayer de poursuivre leur que les vignes ne partent pas et s'arrachent pas. Donc aujourd'hui, ça devient un domaine important. Mais malgré d'avoir un domaine important, j'essaie de garder ce côté un petit peu convivial, petite exploitation et convivialité avec les clients. Et je fais aussi des vins séparément de la grosse production, avec du caractère et avec l'identité du Beaujolais et mon identité.
C'est une vinification maison ou c'est...
Alors j'ai une partie qui est en cave coopérative. Et j'ai aussi une autre partie qui est vinifiée, que je vinifie moi-même. La partie en cave coopérative est vendue aux négociants. Et moi, derrière, je vais produire mes vins, je vais affiner mes vins. Et je vais ramener un petit peu ma touche bordelaise, on va dire, puisque j'essaie de faire des vins qui respectent le cahier des charges et puis l'identité beaujolaise. Mais j'ai essayé de mettre ma note pour ramener mon identité.
Une gamme très diversifiée.
Oui, forcément. J'ai aujourd'hui, avec 70 hectares, j'ai du Fleury, du Morgon, du Chirouble, Côte de Brouilly, du Brouilly, donc ce qui fait déjà quelques appellations. J'ai en majorité des Beaujolais villages. Je fais du rosé. Et puis à côté de ça, on a aussi les vins blancs aujourd'hui qui se sont bien installés dans le Beaujolais, avec le Chardonnay. Et j'ai aussi mis en place du Pinot Gris et du Viognier. Donc ça fait une gamme importante. Et le consommateur ou le client, quand il vient au domaine, il s'aperçoit que dans le Beaujolais, on ne fait pas que du rouge, on sait faire d'autres choses. Et puis, ça nous permet de partager notre passion avec eux et de parler de tout ce qu'on peut faire.
Justement, des cuvées très différentes les unes des autres. Il faut être multi-vinificateur, puisque on le sait, chaque terre est très différente. On fait des vins très différents en fonction de chaque parcelle.
Alors j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'un œnologue qui était sur les Oulières, qui m'a accompagné au départ. Thierry Mabat qui m'a aussi guidé. Puis je suis un petit peu autodidacte, donc j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup analysé et je me suis lancé pour faire mes vins. Et aujourd'hui, je fais mes cuvées, je les travaille, je suis passionné. Je pense que quand on fait du vin, il faut être passionné, puis il faut aimer ça et on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc après, on va s'adapter au terroir, on va s'adapter au cépage, on va s'adapter au millésime et on va chaque année sortir ce qu'on peut faire de mieux.
Une production sur des terrains sableux,
On va retrouver une grosse palette sur 70 hectares. On va retrouver des terrains qui sont des terrains granitiques, en granit rouge. On va retrouver du granit bleu. On va retrouver des roches dégradées qui forment des sables, beaucoup sur Fleury, sur Salarbrissona aussi en particulier. On va retrouver des terrains un peu plus lourds, argileux, qui vont être sur les bas. Et puis on va retrouver des terrains très forts, très durs, qui vont être sur les coteaux, qui vont donner les vins avec les meilleurs caractères.
Alors justement, oui, quels sont les caractères différents en fonction peut-être du sableux, etc., du granit?
C'est très difficile à dire. Ce que je vais pouvoir dire, c'est qu'on va voir en sortir du gras sur la partie argileuse. On va avoir sur des granits bleus des vins qui vont être assez fins et assez typés. Sur les granits roses, on sortira d'autres types de vins et avec une autre typicité, mais qui vont être aussi assez fins et rugueux des fois. Plus le terroir va être dur, plus le vin sera entre guillemets charpenté et plus il aura de caractère.
Des vignobles raisonnés, vous avez parlé.
Oui, l'exploitation est aujourd'hui en culture raisonnée et on a été reconnu à travers un label qui s'appelle le label AGE, haute valeur environnementale, en 2018. On a eu une facilité pour le passer parce qu'on avait déjà entamé toutes ces démarches de culture raisonnée. Et cette démarche aujourd'hui de AGE nous oblige tous les ans à ramener des évolutions et être toujours meilleur. Et le référentiel varie tous les 5 ans et augmente tous les 5 ans. Donc c'est une démarche qui nous permet de partir d'un point A sur une exploitation et d'aller à un point B pour évoluer vers une agriculture propre.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, les vignobles ne sont pas uniquement gamay. Il y a une introduction de cépages différents.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une évolution climatique, température et le climat qui évolue, qui se rapproche plus du climat du sud de Lyon. Et on est un certain nombre de viticulteurs à avoir planté des cépages qui sont plus du sud, type le Viognier, type la Syrah. C'est vrai qu'on a une évolution dans ces cépages où on ne peut plus les appeler Beaujolais puisqu'on n'est plus dans le cahier des charges, mais ils vont être en IGP ou c'est les vins sans IG, des vins de France.
Vous pensez que c'est une transition naturelle essentielle en quelque sorte.
Il faut être bien malin pour être celui qui pourrait dire comment va évoluer la météo dans les années à venir. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ces cépages qui sont un peu plus méridionaux nous permettent de pouvoir faire des vins différents. Ce qui est sûr, c'est que l'identité du gamay, elle est unique. Il souffre de nos chaleurs. Il faut regarder comment on peut continuer à faire nos gamay. Mais on a la chance peut-être dans les années à venir de pouvoir peut-être faire des assemblages ou ramener des notes de ou de structure, ou de poivre, ou autre, qui vont ramener des vins un petit peu différents, complémentaires à ce que l'on fait aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier les racines de ce que l'on a, et je pense que le Beaujolais gardera son identité beaujolaise dans le temps.
À la découverte du domaine de Rochefolle.fr, sa page Facebook, sans oublier ses rendez-vous du jeudi et vendredi soir, tapas et dégustation au clair de lune. La suite de l'actu avec Valérie Blais.
Le collège Jean Moulin et les écoles élémentaires Lamartine et Jean Bontou de Villefranche participaient à la cérémonie hommage fin juin de trois soldats spahis morts à Villefranche-sur-Saône le 3 septembre 1944 avec l'ONAC-VG, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et aux côtés des officiels, notamment le maire de Villefranche Thomas Ravier et le sous-préfet à Villefranche Monsieur Jean-Jacques Boyer. Une démarche citoyenne de la jeunesse saluée, de mémoire et de reconnaissance de la France envers tous ces hommes qui ont donné leur vie pour un pays qui n'était pas le leur. On écoute les allocutions des enfants de Thomas Ravier et de Monsieur Boyer.
Le spahi Mouaidine Ben Kader Marsli est né le 27 septembre 1910 à Ouled Ben Affan en Algérie. Brigadier au 2e régiment de spahis algériens, il est tué par éclat d'obus le 3 septembre 1944 à Villefranche-sur-Saône.
Allocution de M. Thomas Ravier, maire de Villefranche-sur-Saône.
Monsieur les porte-drapeaux représentants des associations patriotiques, mesdames, messieurs, directeurs, directrices d'établissements, professeurs des écoles, de collèges, et puis surtout vous, jeunes gens ou collégiens de Villefranche. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir sur cette esplanade du souvenir. Vive Villefranche, vive la République et vive la France.
Parmi tous ces hommes venus d'au-delà des mers, les combattants d'Afrique occupent une place singulière. Zouaves et Tabors, tirailleurs et spahis, ils ont fait d'un pays leur patrie, d'une guerre leur combat, d'une cause leur honneur. Spahi, ça vient d'un vieux mot persan, sipahi, qui désigne un guerrier qui combat à cheval.
C'était Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, dans le cadre de l'hommage rendu aux spahis Morsli Mohedine, Ben Salah Ziad et Garcia Dominique, ainsi que les autres soldats tombés pour la France et honorés par les scolaires des écoles élémentaires Lamartine et Jean Bontou, et les collégiens de Jean Moulin à Villefranche. Retrouvez plus d'informations auprès de l'ONAC-VG, l'opérateur majeur de la politique de mémoire du ministère des Armées pour la transmission de l'histoire et des mémoires de la guerre d'Algérie, sur le site www.onac-vg.fr.
Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.